Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel. On est lundi 24 février 2020. Abdourahman Dia, la présentation, voici les titres. Au Togo, la commission électorale annonce une victoire du président sortant Faure Gnassingbé Nyasingbé avec plus de 72% des voix. L'opposition conteste les résultats. En Guinée, l'Organisation internationale de la francophonie remet en question la régularité du référendum et des législatives prévues dimanche. Manifestation devant l'ambassade de France à Yaoundé contre les propos du président français sur la crise anglophone. Forte baisse des marchés boursiers et crainte dans le secteur du tourisme à cause de l'épidémie du coronavirus. Et puis le président Trump en visite en Inde, le renforcement des relations commerciales au menu de la visite. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Togo, Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième du scrutin présidentiel de samedi selon les résultats publiés par la commission électorale, conteste la victoire du président sortant Faure Gnassingbé. Il appelle les Togolais à la mobilisation. Le candidat malheureux interpelle les missions d'observation et la communauté internationale à prendre des mesures pour rétablir la vérité des urnes. Le point avec notre correspondante à Lomé Kailoso.
C'est un jour ordinaire qui s'est levé ce lundi sur la capitale togolaise. Rien ne laisse entrevoir que les résultats de la présidentielle ont été proclamés la veille. Sur la place de Lomé, en face de l'hôtel de la paix, des jeunes venus squatter le wifi public commentent l'actualité du moment.
C'était vraiment un coup de foudre, hein. Vu la tendance à Lomé, vraiment, personne ne s'attendait à ça.
Ce résultat qu'ils nous ont donné, tout a été formaté, toiletté et refait à la taille de leur président voulu.
Il a gagné fort, vraiment, il n'a qu'à continuer.
Ça a été dit quand même que normalement ce soir, 20h, que les élections seront proclamées. Mais ça fait que hier nuit, nuit tardive, ils ont proclamé les élections, c'est quelque chose qui paraît illégal.
La sérénité avec laquelle la ville se comporte est la résultante de ces expériences, estiment ses habitants de Lomé.
Non, le Togolais absolument est mature, hein. Sinon on te prend, puis on te jette en prison, c'est fini pour toi. On dit que tu es mort pour la patrie, non, tu es mort pour ta famille.
Personne ne veut plus être frappé, il ne veut plus écrire sur son portail déjà frappé ou autre là.
C'est la première fois que le silence règne, tout le monde se bagarre pour rien, alors qu'on n'obtient aucun résultat de ce dont nous faisons toujours celui.
D'après les résultats proclamés ce dimanche par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé remporte le scrutin dès le premier tour avec 72,36% des suffrages exprimés devant Agbeyome Kodjo 18,37% et Jean-Pierre Fabre 4,35%. Kailoson, Lomé, VOA Afrique.
L'Organisation internationale de la francophonie a sévèrement remis en cause la régularité du référendum et des législatives de dimanche en Guinée. L'OIF, qui a accompagné le processus électoral en Guinée, juge problématique plus de 2 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'OIF a indiqué qu'il lui était difficile de continuer sa mission 6 jours avant cette consultation à haut risque. Elle montre du doigt un nombre disproportionné d'électeurs par rapport à la démographie du pays et l'inscription, selon elle, de mineurs sur les listes électorales. En 2018, l'OIF avait mené un audit du fichier électoral datant de 2015. L'audit dénombrait 2,49 millions d'électeurs dont la présence sur les listes était problématique, rappelle l'OIF. Parmi eux, des électeurs décédés ou des doublons, et sur ces 2,49 millions de personnes, 98% ne disposent pas de documents permettant leur identification. La francophonie ne fait que constater la mascarade qui est en cours en Guinée, a commenté Abdourahman Sano, coordinateur du collectif menant la contestation. L'opposition dénonce le référendum couplé aux législatives comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un troisième mandat, alors que l'actuelle constitution en limite le nombre à 2.
Au Cameroun, des jeunes ont manifesté devant l'ambassade de France à Yaoundé, s'indignant des propos du président Emmanuel Macron, qui a promis de mettre la pression sur son homologue Paul Biya. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Le premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, s'est présenté ce lundi à la surprise générale devant la justice de son pays pour répondre des accusations du meurtre de son ex-épouse. À l'issue d'une brève audience, le dossier a été renvoyé devant la haute cour du Lesotho sans que le premier ministre Tabane ne soit formellement inculpé. Il était accompagné de sa deuxième femme, Maseya Tabane, 42 ans. Épousée deux mois après la mort de la première et déjà inculpée de complicité du meurtre de sa rivale. En Afrique du Sud, une cinquantaine de femmes porteuses du VIH ont été stérilisées de force dans des hôpitaux. C'est ce qu'a révélé ce lundi une enquête qui fait état de nombreuses violations de leurs droits et appelle à une action gouvernementale. Cette enquête a été lancée en 2015 lorsque deux organisations de défense des droits des femmes ont approché la Commission pour l'égalité des sexes en Afrique du Sud avec 48 cas documentés de stérilisation forcée. Faez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale libyen, a qualifié le maréchal Khalifa Haftar de criminel de guerre. Il a aussi dénoncé l'inaction internationale face aux violences dans son pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde avec une hausse des contaminations et des décès en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Les bourses mondiales ont chuté à leur ouverture ce matin, anticipant l'impact sur l'économie mondiale. Clermont Richebourg.
Le monde doit se préparer à une éventuelle pandémie, a déclaré aujourd'hui le directeur général de l'OMS en jugeant très préoccupante l'augmentation soudaine de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Après une nouvelle flambée des cas qui sont passés de 6 à 219 en 4 jours, l'Italie a proposé une réunion des ministres de la Santé des pays frontaliers pour déterminer des lignes d'action communes. La Commission européenne ne souhaite cependant pas, dans l'immédiat, le rétablissement de contrôles aux frontières à l'intérieur de l'UE. Deux mois après l'apparition du nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, avec 602 cas de contamination et 6 décès, la Corée du Sud compte le plus grand nombre de malades sur son sol après la Chine, où le dernier bilan fait état de près de 2600 morts. 5 pays ont annoncé des premiers cas de contamination, l'Afghanistan, Bahreïn, Koweït, l'Irak et Oman, qui suspend ses vols avec l'Iran. Téhéran a nié avoir menti sur l'ampleur de l'épidémie.
Le président américain est arrivé ce lundi en Inde, où le tapis rouge lui a été déroulé. Donald Trump y effectue une visite d'État de deux jours destinée à nouer des relations commerciales entre les deux pays sur fond de conflit avec la Chine. Jacques Aristide.
Namaste Trump, bonjour Trump. C'est ainsi que le président américain a été acclamé aujourd'hui par plus de 100 000 Indiens dans le nouveau stade Motera à Ahmedabad, le plus grand stade de cricket au monde. Point d'orgue d'une première journée, un grand spectacle pour la tournée de Donald Trump en Inde. Aux côtés du premier ministre indien Narendra Modi, le chef de l'exécutif américain a loué les liens entre l'Inde et les États-Unis. Il promet à Delhi un accord commercial incroyable et l'équipement militaire le plus redouté de la planète, dit-il.
Je suis heureux d'annoncer que nos représentants signeront demain des accords pour la vente d'hélicoptères militaires d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars et d'autres matériels de pointe aux forces armées indiennes.
Accompagné de son épouse Melania, Donald Trump a ensuite visité le Taj Mahal à Agra, chef-d'œuvre d'architecture indo-persane. Le président américain était attendu pour la dernière journée de son périple à New Delhi, où Indiens et Américains aborderont demain le fond des dossiers.
Les États-Unis accusent le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, d'avoir mis des sources en danger en publiant une masse d'informations classifiées. 10 ans après la diffusion choc de centaines de milliers de documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, une cour britannique a entamé ce lundi l'examen prévu pour durer plusieurs mois de Julian Assange, déterminé à se battre contre des poursuites qu'il juge politiques. Washington réclame son extradition. La réunion de conciliation entre les pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien et Téhéran aura lieu mercredi à Vienne. L'objectif est de préserver l'accord de 2015 sur le nucléaire après le retrait de Washington et persuader Téhéran de le respecter. Les combats dans le nord-ouest de la Syrie se rapprochent dangereusement de campements où vivent environ 1 million de personnes déplacées, c'est ce qu'a prévenu ce lundi l'ONU à Genève. Le coordinateur régional adjoint pour les opérations humanitaires en Syrie a également indiqué que les Nations Unies tentaient de doubler leur livraison d'aide à travers la frontière turque en essayant de faire passer 100 camions par jour au lieu d'une cinquantaine. L'ONU dit craindre un bain de sang. Le régime de Damas, appuyé par son allié russe, a lancé une offensive en décembre dans le nord-ouest contre le dernier bastion rebelle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. L'actualité économique dans la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, les sociétés nationales d'exportation de café et de cacao dénoncent la concurrence déloyale des multinationales qui pourrait provoquer leur faillite. Seules les entreprises internationales bénéficient des primes sur les fèves de cacao certifiées durables. Ces primes vont de 70 à 200 dollars par tonne. Le groupement des négociants ivoiriens du cacao, qui se dit exclu du marché certifié, ne peut même plus acheter de fèves de cacao non certifiées pour assurer sa survie. Il veut discuter avec les chocolatiers pour mettre fin à cette situation. En République démocratique du Congo, le directeur général de Safricas Congo, l'Américain David Buckner, a été placé en détention préventive vendredi dans le cadre d'une enquête sur des abus présumés dans la gestion de grands travaux à Kinshasa. Son entreprise exécute avec des sociétés chinoises les travaux de construction de 7 ponts routiers dans la capitale congolaise. L'homme d'affaires détient aussi la compagnie aérienne CAA et la banque BAC. Pour terminer, les cours du pétrole ont chuté ce lundi en raison des risques de la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine. L'activité économique et les voyages touristiques tournent au ralenti. À Londres, le baril de Brent pour livraison en avril valait 56,05 dollars, soit une baisse de 4,19% par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril a perdu 3,97% pour s'établir à 51,26 dollars.
On passe au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Le Zamalek se retire du championnat égyptien.
Oui, l'annonce a été faite par le président du club, Mortada Mansour. Une annonce qui intervient alors que le Zamalek a remporté vendredi la Supercoupe d'Égypte face à Al Ahly, son deuxième titre en 7 journées après le sacre en Supercoupe de la CAF contre l'Espérance de Tunis. Mansour retire son équipe du championnat pour protester contre les sanctions à lui infligées et à son club. À l'issue du match à Abu Dhabi, les joueurs du Zamalek Imam Anchour, Chikabala et Abdallah Goma ont respectivement écopé d'une suspension jusqu'à la fin de la saison, 8 matchs et 2 matchs. Ceci en rapport à des bagarres à la fin du match Zamalek Espérance de Tunis disputé aux Émirats Arabes Unis. Les deux clubs écopent de 100 000 francs égyptiens d'amende.
Moulou Kinfe et Riley Michael enlèvent l'étape 2 du Tour du Rwanda.
Et oui, l'Éthiopien a franchi en premier la ligne d'arrivée à l'issue des 120,5 km courus entre Kigali et Ouye. Il a devancé le Colombien Jonathan Valencia et l'Érythréen Binyam Aïlou. Une performance sans conséquence sur le porteur du maillot jaune. Le Kazakh Yevgeny Fedorov garde la tunique de leader au classement général. Derrière Fedorov, on retrouve l'Érythréen Enoch Moulia Biran et son compatriote Binyam Aïlou. Demain, le peloton ira de Ouye à Rusizi, 142 km.
La Côte d'Ivoire s'est imposée en tournoi de qualification pour l'Afro-Basket 2021.
Victorieux de la Guinée 58 à 50 lors de l'acte 1, les éléphants ont arraché un deuxième succès 78-64 face à la Guinée équatoriale. Lors du troisième match face aux Camerounais hôtes de ce mini-tournoi, les Ivoiriens se sont imposés 82 à 74. Les éléphants de la Côte d'Ivoire s'emparent ainsi de la première place du groupe C.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain. Les Lakers se vengent de Boston.
Un mois après l'humiliation subie à Boston 139-107, les Lakers ont redoré leur blason face aux Celtics battus 114-112. Avec ce cinquième succès de rang, les Los Angeles Lakers confortent leur première place à l'Ouest devant Denver qui a réagi après deux défaites consécutives en battant Minnesota 128-116. Vainqueur d'Indiana 127-81, les Raptors de Toronto, bien menés par Pascal Siakam 21 points et Serge Ibaka 15 points et 15 rebonds, ont laminé Indiana 127-81. La franchise canadienne consolide sa deuxième place à l'Est derrière Milwaukee, première équipe qualifiée pour les playoffs au bénéfice de la défaite de Washington contre Chicago, 126-117.
Voilà, merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé a été réélu pour un quatrième mandat. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition conteste et appelle les populations donc à contester les résultats. Les précisions avec notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Hermanoubo.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a déclaré vainqueur de la présidentielle du 22 février le candidat de l'Union pour la République, le président sortant Faure Gnassingbé, devant l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo qui, lui, s'est autoproclamé président élu, une situation qui inquiète déjà certains observateurs de la vie politique au Togo. Narcisse Prince Agbodjo est journaliste.
Nous sommes encore plus dans une période sensible. C'est une période beaucoup plus de revendications, c'est une période aussi où les politiques stimulent les populations à de violence. Notre souhait, c'est que tout se passe bien.
Jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, tout le processus électoral s'est déroulé sans incident majeur. Va faire remarquer Narcisse Prince Agbodjo avant d'insister sur ce qui préoccupe le plus l'ensemble des citoyens togolais.
Les Togolais ont plus, sont plus inquiets par rapport à leur panier de la ménagère. Tout notre souhait, c'est que chacun puisse vaquer à ses occupations après les élections et vivement que les politiques puissent comprendre que le Togo puisse avancer et que tous on se rappelle que nous sommes tous Togolais et que l'important c'est de véritablement travailler en communion pour le développement de notre pays, le Togo.
Occasion pour le commissaire aux affaires politiques à la Commission paix et sécurité de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest d'insister sur la notion de paix que doivent s'approprier les différents acteurs politiques du Togo. Général Francis Béonza.
Vous savez, l'évolution sociopolitique de nos différents pays, remarquable sur le plan de la nécessité d'avoir la paix autour et avec tous les acteurs politiques. Pour le Togo, de façon particulière, il faut vous dire que nous sommes partis de très loin. Vous vous rappelez les événements de 2017, les événements de 2018, jusqu'à l'élection législative de 2018. Ensuite, après l'élection législative, il y a eu l'élection locale, les élections locales. Et à ces élections locales, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons constaté au niveau de la région que tous les acteurs politiques ont participé à cette élection locale. C'est signe que la tolérance prend le dessus sur des clivages politiques peut-être utiles, parfois inutiles, mais ce qui doit compter pour le peuple togolais, c'est de se retrouver pour aller à un développement qui permette à toute la population de se retrouver comme citoyen togolais.
Irénée Hermanoubo, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Des centaines de Camerounais ont manifesté devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer les propos du président français Emmanuel Macron sur la manière dont le Cameroun gère le conflit dans ses régions anglophones. Emmanuel Macron avait promis samedi de mettre la pression sur le président Biya. Le reportage de Moké Edwin Kinzeka, Yaoundé, avec le récit de Lionel Gaïma.
Entre 400 et 600 jeunes, selon une estimation de la police et de la gendarmerie, se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Yaoundé. Ils ont chanté et dansé à la gloire de M. Biya tout en dénonçant l'attitude du président français. Alex Doumbé, un enseignant âgé de 30 ans se dit mécontent de critiques d'Emmanuel Macron sur les droits de l'homme au Cameroun et la manière dont le président Paul Biya traite les rebelles anglophones.
Nous protestons contre ce que le président Macron a dit sur notre pays et surtout un président de son calibre. Il n'était pas censé parler comme ça dans un pays respecté comme le Cameroun, un pays qui s'est battu pour son indépendance depuis 1960. Ce que nous voulons de Macron, c'est qu'il demande pardon à notre président et à toute la nation. Nous dormirons ici parce que nous voulons qu'il demande pardon immédiatement.
La plupart des manifestants portaient des drapeaux du Cameroun. D'autres brandissaient des pancartes hostiles au président français. Ils ont nié les accusations selon lesquelles ils ont été payés par le gouvernement camerounais. Samedi à Paris, Emmanuel Macron a qualifié d'intolérable la situation des droits humains au Cameroun, promettant de mettre la pression sur M. Biya pour que cesse cette situation. Il répondit à un activiste camerounais qu'il avait interpellé au salon de l'agriculture sur 22 civils tués ce mois-ci dans une région anglophone. Des témoins ont affirmé que le 14 février, des hommes masqués en uniforme militaire ont lancé un raid sur un village, tuant des femmes et une dizaine d'enfants. L'armée camerounaise a nié avoir visé des civils, mais a parlé plutôt d'un accident malheureux. L'armée camerounaise assure qu'elle combattait des séparatistes lorsqu'une femme et quatre enfants ont été tués dans l'incendie d'une cachette rebelle. Le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué, a condamné à la fois l'activiste camerounais et M. Macron pour ce qu'il a qualifié d'exagération flagrante et des propos trompeurs sur la situation des droits de l'homme. Mais les critiques de Paul Biya ne sont pas de cet avis. Le prince Mike Ongwese Ekosso, président du Parti démocratique socialiste, un parti d'opposition.
Je soutiens le président Macron. Il y a beaucoup trop de violations des droits de l'homme, particulièrement avec la crise anglophone.
Elvis Ngolé-Ngolé, expert en relations internationales à l'université de Yaoundé, estime que Biya et Macron devaient se parler pour détendre l'atmosphère.
En raison de la position géostratégique du Cameroun, je pense que la France a beaucoup à gagner en gardant ses relations avec le Cameroun.
Depuis 2017, l'armée camerounaise lutte contre des rebelles séparatistes qui veulent créer un État anglophone indépendant appelé Ambazonie. M. Macron a déclaré qu'il prévoit d'appeler M. Biya cette semaine et de faire pression sur lui pour résoudre ce conflit qui a fait près de 3000 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
L'épidémie de pneumonie virale coronavirus qui s'est accélérée à travers le monde avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran. En Europe, l'Italie, qui compte désormais 5 morts, est devenue le premier pays à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord. Pour le moment, aucun cas n'a été diagnostiqué en Afrique. Pourquoi et comment le continent a réussi à se protéger jusqu'ici? John Lindon a joint le responsable du programme d'urgence à l'OMS à Brazzaville, le docteur Michel Yao.
L'Afrique reste à haut risque. Et donc, le scénario d'avoir un cas reste probable. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la nécessité d'avoir un plan de préparation avec les différentes composantes. Donc, on pourrait dire que c'est juste par chance ou par coïncidence qu'il n'y a pas eu de cas, mais le risque reste élevé.
Quels sont les signes qui permettent de connaître que quelqu'un est atteint ou risque le coronavirus?
Il s'agit de quelqu'un qui provient d'une zone contaminée par le virus et qui a des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la grippe ordinaire. Donc, une personne qui éternue, tousse, mais aussi selon les informations qu'on a eues sur le cas actuel en Chine, une personne qui pourrait aussi manifester la forme sévère avec une détresse respiratoire qui exige une certaine réanimation. Mais on met beaucoup plus l'accent sur des personnes qui proviendraient de zones déjà contaminées.
Et quelles sont concrètement les mesures que vous prenez pour éviter à l'Afrique d'être contaminée?
Ce sont des mesures de prévention, de détection rapide, d'isolement et de prise en charge de cas. Comme je dis, le risque d'avoir des cas est élevé et difficile à prévenir. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on ait un mécanisme qui puisse permettre une détection précoce et une prise en charge efficace pour éviter une contamination majeure au sein de la population. Donc ce sont des mesures de surveillance, de détection au point d'entrée, des mesures d'isolement et de prise en charge, des mesures de formation pour éviter une contamination du personnel, c'est-à-dire l'utilisation des équipements de protection, mais surtout aussi la sensibilisation et l'éducation des populations à reconnaître les signes, surtout des personnes qui auraient un historique de voyage dans les pays déjà contaminés.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures que vous évoquez sont appliquées?
Ces mesures ont été recommandées aux pays, pour certains en cours de finalisation, pour d'autres déjà réalisées. L'action la plus urgente, c'est vraiment le mécanisme de détection et aussi de confirmation que sont les laboratoires. Il y a un progrès qui a été réalisé. Nous en étions à 2 laboratoires il y a 2 semaines. Au moment où je vous parle, il y a 28 pays sur les 47 que notre bureau couvre qui ont déjà ce système en place.
C'était le docteur Michel Yao, responsable du programme d'intervention d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La 28e édition du Pan-African Film Festival a refermé ses portes ce dimanche. Créé par l'acteur et producteur Danny Glover, ce rendez-vous du 7e art est le plus grand festival de films noirs d'Amérique. Et Kiabadou, notre envoyé spécial à Los Angeles, revient sur ce festival.
C'est un garçon. Il va avoir un fils ?
Assez vite, tu vas avoir un petit frère.
Plus de 150 films en provenance de toute l'Afrique, des États-Unis, d'Europe, des Caraïbes, du Pacifique Sud, d'Amérique du Sud et du Canada ont été diffusés pendant 10 jours.
Les rebelles ont pénétré dans la ville ce matin. Les combats à l'armée sont rares.
Présenté pour la première fois au public américain, D'errance, le dernier film d'Apolline Traoré, primé au dernier FESPACO, a remporté un franc succès auprès du public et les acteurs Magdanon et Naomi Nélin-Gémima ont spécialement fait le déplacement de Côte d'Ivoire pour le représenter aux côtés de l'acteur Jimmy Jean-Louis.
Ce film, ça parle de la guerre au Bolivie, la guerre au Côte d'Ivoire, et puis aussi ça parle d'un père qui a quitté son pays de Haïti, il y avait la guerre.
Oui, c'est déjà une belle expérience d'être ici. Déjà de par le voyage, quitter Abidjan et venir ici aux États-Unis. On va dire que c'est le rêve de tout cinéaste d'avoir l'environnement le plus extraordinaire du cinéma mondial. Mais le film est bien vu parce que Apolline a fait un travail formidable. Elle a eu l'intelligence de ne pas creuser trop profond le drame ivoirien de cette époque, mais d'y greffer une histoire assez magnifique d'un père et sa fille.
Et on a tourné à Abidjan, ça s'est plutôt bien passé. Malgré le sujet qu'on abordait, parce que c'est un point très dur de la mémoire des gens.
Vision 2020, pour dire 2020, était le thème de cette année qui marque le coup d'envoi d'une nouvelle décennie avec un nouvel objectif, la consolidation de son engagement à raconter des histoires diverses avec une vision globale et positive. Un pari.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.